Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aujourd'hui, encore des infos incroyables en matière de progrès pour l'intelligence artificielle avec encore un nouveau projet d'OpenAI qui donne un nouveau curseur dans l'innovation. C'est Sora qui éclipserait sans doute, peut-être à tort, hein, des avancées de Gemini chez Google. On a aussi Nvidia qui décroche un nouveau badge dans le classement des entreprises à succès, mais avec une concurrence nouvelle. Quelques infos encore sur l'Apple Vision Pro et puis sur le DMA, c'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en février 2024 et c'est l'épisode 553. Et bon, c'est évident, hein, je pense que vous l'entendez, mais c'est évidemment pas Patrick Béja que vous entendez, vous l'avez identifié. Mais c'est quand même le rendez-vous tech que vous écoutez, je suis Guillaume Vendée. Vous l'avez peut-être entendu il y a quelques jours, mais Patrick a eu besoin de se libérer du temps de son côté et il m'a demandé de le remplacer. Alors rassurez-vous, Patrick revient la semaine prochaine hein, de toute façon. Il est d'ailleurs pas complètement absent parce qu'il a continué sa veille et il a contribué au conducteur de l'épisode. Et puis surtout, rassurez-vous aussi, parce que je ne suis pas la caution d'un épisode du Rendez-vous Tech selon les standards de qualité, je suis aussi rassuré parce que j'ai la caution, tenez-vous bien, des meilleurs co-animateurs de Patrick. D'ailleurs, c'est comme ça hein, que s'est organisée l'émission. Il m'a dit il faut absolument qu'il y ait les co-animateurs les plus exceptionnels. Alors, on a fait venir, d'une part, Marion Doumang. Salut Marion, comment vas-tu?
Salut Guillaume. Ah, dis donc, quelle pression, quelle introduction là-dessus. Tu nous fais, c'est incroyable.
Je retransmets la pression de Patrick, hein, il en attend évidemment beaucoup de vous, tu t'en doutes. Alors bon, déjà rien qu'avec Marion, l'émission serait au top, mais pour qu'elle soit aussi exceptionnelle, il y a le formidable Julien Cadeau, responsable de la stratégie éditoriale chez Humanoid, Numérama, Mademoiselle Frandroid, et plus récemment, Lemon. Salut Julien.
Bonjour. Bonjour, je suis assez peu incroyable au demeurant, mais
ah, quand même.
Je suis ravi d'être là.
Le plaisir est partagé, on a des choses vraiment dingues en matière d'intelligence artificielle dont on va pouvoir parler. Vraiment, l'actu montre à quel point c'est un domaine qui bouge très vite, qui profondément évolue de jour en jour. On va en reparler. Je ne sais pas si vous voulez toucher un mot, Julien, de l'acquisition de Lemon chez Humanoid. C'est une nouvelle corde à votre arc.
Oui, complètement. C'est un média... un média d'analyse statistique, un média de service aussi à ses lecteurs qui officie sur le web depuis un peu plus de 10 ans et qui a mis en place des moteurs de comparaison très poussés, notamment sur les services télécoms, donc 4G, 5G, fibre. Et en fait, pour nous, comme c'est un de nos piliers, la recommandation côté Frandroid notamment, et ben ça a été un match assez évident et on est très content de pouvoir proposer ces services-là au sein du groupe. Alors évidemment, on va les faire évoluer. On va leur donner la patte humanoïde que certains et certaines connaissent. Mais voilà, c'est un nouveau projet, c'est chouette, on se lance dedans. C'est tout récent, donc j'ai quasiment pas grand-chose à en dire, en fait. Mais ça promet des belles choses dans les mois qui viennent, en tout cas.
Bon, ça complète un petit peu votre dispositif d'information autour d'éléments de comparaison un peu affinés, je pense. Bon, c'est très chouette, on suivra ça. Mais en attendant, et comme le temps peut-être nous est un peu compté, qu'on a vraiment beaucoup de choses à dire, en fait, il suffit que Patrick tourne le dos pour que ça y est, hein, toute l'actu de la tech soit une nouvelle fois bouleversée grâce à l'intelligence artificielle. Alors, on va se précipiter dans ces news ensemble, parce que oui, quand on anime et quand on suit l'actualité de la tech, ça devient un vrai challenge de ne pas relever les multiples innovations qui arrivent dans le domaine de l'IA chaque semaine. Et donc cette semaine, alors c'est complètement dingue, c'est une course folle qui est d'ailleurs enthousiasmante pour les uns, angoissante pour les autres, on va en reparler. Mais on va parler en premier lieu d'OpenAI qui a présenté un nouveau modèle qui s'appelle Sora. Alors il existe déjà des modèles qui génèrent des vidéos en fait de longue date, mais là il semble quand même qu'on a clairement un marqueur fort qui se différencie avec ce qu'on a pu voir, tellement les résultats semblent complètement convaincants. Alors après, évidemment, hein, on imagine que les résultats ont été pour partie sélectionnés parce que ce n'est pas un modèle c'est pas un outil qui est accessible déjà au grand public aujourd'hui. Il est en test et il a été présenté un petit peu en avance. Donc, il n'est pas en accès libre, mais il initie donc une phase de test pour évaluer notamment, alors vous savez, hein, vous connaissez la chanson maintenant, ils évaluent un petit peu les risques qui pourraient être apportés par ce nouvel outil, pour avoir des retours, et puis donc pour nous donner un aperçu de ce qui sera possible dans le futur, c'est-à-dire dans la temporalité de l'intelligence artificielle, peut-être dans quelques semaines. C'est un modèle qui génère des vidéos extrêmement réalistes, qui vont jusqu'à une minute. Et puis, quand on regarde un peu les démos, bah, on a des séquences qui correspondent à des prompts qui ont été donnés. Alors, on a, bah, voilà, enfin, vous irez regarder évidemment sur le site d'OpenAI en temps réel pendant que vous écoutez cet épisode. Ce sera peut-être plus visuel, mais grosso modo, on a un jeune homme qui lit sur un nuage, mais on a vraiment l'impression que c'est un montage vidéo qui a vraiment été pensé pour le rendre extrêmement crédible. Des bateaux pirates à la surface d'un café qui flottent de manière extrêmement cohérente, des poissons origami, des paysages façon captation de drone avec des vagues en bord de mer, des séquences à la manière d'une bande-annonce. Et en fait, vraiment, le point commun de toutes ces vidéos, c'est qu'elles sont d'une part d'une qualité visuelle très, très élevée, très avancée par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Et puis, on a même parfois des successions de plans qui gagnent, qui gardent une certaine cohérence. Et surtout, tout au long de la vidéo d'une minute, on a vraiment une cohérence. Là où il y a d'autres modèles qui se prêtaient à l'exercice, qui subissaient des véritables artefacts, la restitution de la vidéo est très, très cohérente et très convaincante. À la limite, j'irais dire, avant, on avait dans la génération d'images par intelligence artificielle des petits artefacts que vous connaissez bien avec des mains à 8 doigts, des dents trop nombreuses dans les sourires des gens, etc. Ça a été corrigé. En matière de vidéo, il y avait plein de petits artefacts qui continuent à arriver, qui étaient du même ordre. C'était probablement beaucoup plus difficile que pour générer des images statiques, cohérentes. Et là, ça a été visiblement pas mal réglé, en tout cas ça a beaucoup avancé. C'est pas parfait, il présente aussi dans la page des défauts qu'il peut y avoir, notamment des petits soucis de cohérence dans le temps. On a le fait qu'on a des archéologues, des chercheurs qui arrivent à déterrer une chaise en plastique qui s'anime toute seule. Il y a un côté d'ailleurs très drôle quand on voit cette vidéo. On a aussi des soucis de respect de la physique et de la logique globalement, notamment dans les interactions entre les personnes ou la manière dont avancent les personnes dans le sens de la vidéo. Mais ça a véritablement fait le buzz ces derniers jours, pour deux raisons, en fait. D'une part, parce que Sam Altman, qui est le patron d'OpenAI, proposait de générer des vidéos avec Sora sur la base de prompts qui lui étaient envoyés sur Twitter. Donc, il y a eu aussi cet élément d'interaction qui a participé à l'effet de buzz, évidemment largement nourri par la qualité des résultats de Sora. Et puis, d'une autre part, tout de suite, tout le monde s'est inquiété un petit peu rapidement de la désinformation que pouvait amener la génération de vidéos aussi plausible. Et on reprend, d'ailleurs, on va s'appuyer une première fois sur Patrick qui a pris la parole sur Twitter, où il disait qu'il identifiait le fait que a priori tout le monde passait à côté des véritables dangers d'un tel outil. C'est pas tant la capacité d'un outil à générer des contenus qui sont faux mais qui paraissent très réels qui posent problème, mais plutôt, même si ça constitue un élément de problème, mais aussi et surtout parce qu'on va commencer à douter plus que jamais de tous les contenus vidéo authentiques qui sont diffusés et qui nous sont exposés toute la journée. Et ça va contribuer à brouiller les cartes de manière complètement massive. C'est en tout cas un aperçu de ce qui arrive à vitesse grand V. Marion, est-ce que tu as regardé un petit peu ce que Sora proposait? C'est quoi ton sentiment sur cet outil qui est à dispo là? Enfin, pas à dispo du coup, qui va l'être bientôt, mais...
Moi, je trouve ça super impressionnant. Hein. Déjà, pour jouer avec Midjourney, etc., j'avoue que même moi, en tant que designer, je m'amuse pas mal avec. Alors là, de le voir à l'échelle de vidéo, je trouve ça très, très impressionnant. Et surtout, la vitesse à laquelle à chaque fois les modèles s'améliorent, c'est assez excitant pour le futur. Évidemment, ça va amener ses problèmes. C'est-à-dire qu'on pouvait toujours dire, la désinformation, ça a toujours existé, etc. Mais là, il y a un vrai changement d'échelle de par la facilité et la rapidité à produire ce type de vidéos. Et c'était le même problème avec l'image, hein, pour être honnête. Mais là, il y a un vrai changement d'échelle, et c'est là où finalement le changement d'échelle va créer un nouveau problème sur comment, en tant que société, on va interagir avec ce contenu, comprendre ce contenu, identifier si c'est fait de toutes pièces ou si c'est filmé, etc. Donc, j'ai pas de réponse, hein, parce qu'on en est vraiment au début vraiment de cette problématique, mais ça va, je pense, déclencher des changements sur, en effet, notre rapport à la vidéo, aux sources peut-être, à voir.
Est-ce que, Julien, ça change la donne, la production de vidéos à ce niveau-là? Est-ce que je me trompe en considérant que vraiment c'est une différence avec ce qui se passait avant et que désormais ce qui va arriver va toujours être comparé à Sora? Et est-ce que notre rapport à l'information va légitimement évoluer comme Patrick le pressent?
J'ai deux angles là-dessus qui m'intéressent. J'ai lu ce que Patrick avait dit et il y a un côté où je suis d'accord dans le monde où tout ça est fonctionnel. Il y a un autre où je me méfie un petit peu de ces algorithmes un peu trop en mode démo aujourd'hui. Vous vous souvenez de la précédente démo de Google sur la compréhension d'images et la création dans le réel. Là, on avait vu cette petite démo avec le canard. Je sais pas si vous vous souvenez.
Il y avait beaucoup d'éléments qui étaient liés au montage de la vidéo et les contextes d'utilisation réelle étaient peut-être moins... Ils étaient impressionnants, mais pas aussi convaincants.
Exactement. La vidéo m'a bluffé. Mais maintenant, en IA, j'ai envie de dire, je crois ce que je peux utiliser aujourd'hui. Ouais. Et je ne peux pas utiliser Sora. Il y a peut-être des bonnes raisons derrière, mais il y en a peut-être aussi des mauvaises. Comme tu le disais, il montre que ce qui marche. On ne sait pas ce qui ne marche pas, du coup. C'est assez facile de faire du cherry picking sur les meilleurs prompts qui ont été envoyés sur Twitter et de trouver le meilleur qui va fonctionner. Le deuxième point, donc déjà, petit 1, je ne sais pas si ça fonctionne. Et du coup, je suis un peu moins effrayé côté société parce que créer de la vidéo, ça reste quand même du coup quelque chose de, disons, de compliqué. Et jusqu'à Sora, c'était assez inaccessible. Et Sora ne le rend pas plus accessible, vu qu'on n'y a pas encore accès. Mais deuxième point qui m'intéresse encore plus, c'est ce que dit Yann Lequin à propos de Sora. Il en a fait un post, comme d'habitude, sur Twitter. Donc Yann Lequin, évidemment, est dans une boîte concurrente. Hein. Il travaille pour Meta, c'est le Chief AI Scientist à Meta. Mais c'est quelqu'un que je respecte beaucoup dans ce qu'il raconte, parce qu'il a tendance un peu à faire redescendre les gens. Et il a lu le papier, le white paper qui accompagne Sora. Évidemment, il y en a un. Et il pointe du doigt que ce que Sora fait, c'est ce qu'il appelle, je vais schématiser parce que même moi j'ai mes limites hein, dedans, mais de ce que j'ai compris, de la génération de pixels. Et d'après lui, si on se concentre à faire générer des pixels, à la fin, on n'a pas du tout une IA qui comprend ce qu'elle fait et donc qui peut rendre à chaque fois un bon résultat. C'est-à-dire, vous lui dites... l'image, moi je me souviens de la vidéo d'un chat qui avance, vous lui dites ça, elle va pas du tout comprendre ce qu'elle cherche à faire, c'est-à-dire ce que vous cherchez à faire. Elle va pas créer fondamentalement un chat qui avance, elle va générer des pixels plus ou moins ok avec c'est pas une compréhension finalement, c'est une cohérence entre les pixels pour recréer cette vidéo. Et ce qu'il dit, c'est que toutes les tentatives de faire la création d'objets en mouvement qui ont eu cette approche de génération de pixels et pas de tentative de faire comprendre à l'IA quel est le sens de la requête et le sens de ce qu'elle crée, toutes les tentatives historiques n'ont pas fonctionné et ont tout échoué. Est-ce que Sora va réussir à dépasser ça? Ça, c'est encore un doute, et d'après Lequin, pas du tout. Maintenant, donc du coup, c'est encore au stade de l'expérimentation. Et ce que nous montre OpenAI, c'est aussi beaucoup ancré dans une timeline où, en fait, il y a ces phrases de, comment il s'appelle, de Altman, qui cherche à lever 7 trilliards.
Ouais, 5 à 7 trilliards, trillions, je sais pas. C'est des milliers de milliards.
Ouais. Milliers de milliards de dollars. Enfin bref, ils ont aussi un besoin de communication assez urgent et d'en mettre plein les yeux. Ils ont besoin de montrer qu'ils avancent. Je reste pragmatique et encore sceptique, vu les déceptions liées à ce qu'on a annoncé autour de Google. Je préfère garder de la réserve et de la mesure.
Bon, on va prendre des pincettes sur la sortie de Sora tant qu'on ne l'a pas entre les mains. T'as raison de souligner qu'il faut être évidemment prudent. Après, il y a ce point que tu soulèves, Julien, sur la compréhension et ce qui est amené a priori par Yann Lequin, qui me semble être un débat hyper intéressant. Je ne sais pas si c'est vraiment un problème pour Sora sur la base de cette sortie, finalement, que le modèle arrive à restituer des contenus qui sont très convaincants, qui sont d'une qualité graphique importante et qui gagne en cohérence. Moi, ça me paraît déjà un point hyper important, finalement, que l'IA, elle ne comprenne pas ce qu'elle fait vraiment, mais qu'elle donne l'illusion. Mais comme finalement, toutes les intelligences artificielles génératives aujourd'hui le font, parce que ChatGPT ne comprend pas plus ce qu'il restitue, puisque c'est évidemment de la restitution de succession de tokens et c'est vraiment de la sémantique. Finalement, est-ce que c'est vraiment si grave, toi? J'ai l'impression que c'est un point important pour
ça. Je trouve pas ça grave dans le sens où, effectivement, comme le précise Lequin, si on cherche à générer de la vidéo, à la fin, ça va marcher avec un entraînement, avec des entraînements successifs, avec des erreurs et de l'affinage en fait du modèle. À la fin, ça peut marcher, mais il faut pas faire passer Sora pour ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire que Sora ne va pas inventer finalement ce qu'on lui demande de faire. Il va simplement ajouter des pixels à côté des autres et donc probablement faire des erreurs. Et jusqu'à un certain point où, et c'est un peu ce que OpenAI est en train de faire, hein, et pour ça j'en suis reconnaissant, c'est que ils vont également, et c'est ce qu'ils ont dit en tout cas, watermarker ces vidéos. Mais en fait, est-ce qu'on aura besoin vraiment d'un watermark ou est-ce que ce sera pas assez réel parce que pas assez conceptuel pour être finalement une vidéo qu'on prendra au sérieux? Moi, j'ai pas la réponse aujourd'hui. Je sais que toutes les vidéos qui ont été montrées, il y a un élément qui peut me faire me dire ça, c'est pas la réalité.
Oui, mais ça c'est sûr. Enfin, c'est-à-dire que, en effet, toutes les vidéos qui ont été montrées sont impressionnantes parce que par rapport à ce qu'on avait pu voir au préalable avec des vidéos générées par intelligence artificielle, il y a quand même un gap, un écart assez important en termes de qualité. Mais aujourd'hui, c'est très facile encore de voir qu'est-ce qui a été généré quand même. Il y a des aberrations, il y a des incohérences, etc. Maintenant, et en effet, je pense que la communication de OpenAI et de Sam Altman, elle surfe sur ce que tu mentionnais, Julien, sur le fait qu'ils sont en recherche de levée de fonds. Donc, ils ont besoin de faire rêver et de se projeter sur pourquoi on fait cette levée de fonds, pourquoi on veut des processeurs toujours plus puissants pour faire tourner les modèles, etc. C'est parce qu'on est en train de travailler sur aussi ces enjeux de vidéo qui évidemment requièrent encore plus de puissance. Donc c'est clair que tant qu'on n'a pas la main dessus et tant qu'on peut pas l'essayer, on peut pas savoir combien c'est plus facile de faire de la vidéo avec de l'intelligence artificielle versus une production. Mais il est clair que la vision, c'est quand même de simplifier la production de vidéos. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Ça, en effet, comme tu l'as dit, on n'a pas encore les mains dessus, quoi.
Complètement d'accord avec tout ça. Je minimisais pas l'impact social que ça pouvait avoir. Juste, je le vois quand même décalé dans le temps.
Oui, tout à fait.
Parce que on n'a pas vu grand-chose et il y a déjà des défauts qui sont quand même pointés par des spécialistes.
Ouais, je pense qu'à ce stade, on peut retenir que c'est une belle vitrine d'avancée d'OpenAI qui, quoi qu'on en dise, évidemment, bosse beaucoup le sujet et donne un petit peu le curseur de l'innovation. D'ailleurs, on voyait circuler, évidemment, la comparaison était facile. Il y a une vidéo qui était sortie il y a de ça un an, qui était très malaisante et très dérangeante de l'acteur. Mince, j'ai oublié son nom. L'acteur qui mangeait des spaghettis.
Dieu. Je m'en souviens plus non plus, mais.
Ah, je me rappelle plus de son nom, quelle honte. Heureusement c'est dommage qu'on soit pas en live sur Twitch, puisqu'on nous aurait corrigé, mais il mangeait des spaghettis. Et évidemment, cette nouvelle séquence qui a été reproduite avec les technologies de Sora, et c'est évidemment beaucoup plus convaincant, et c'est hyper crédible. Et donc, l'idée, c'est juste de considérer le fait qu'il y a une grosse innovation et que c'est une belle vitrine pour OpenAI, et voilà, c'est une direction à prendre.
Will Smith?
Oui, Will Smith, merci beaucoup, Marion. Quelle honte d'oublier cet acteur.
Ah ouais, j'ai cherché. Hein.
Merci de faire le fact-check.
J'avoue que je n'avais pas vu la vidéo. Je vois les captures d'écran, c'est très, très gênant.
L'ancienne était très gênante, mais il y a de ça seulement un an, et c'est là où c'est fou, c'est de se dire qu'en un an, ça a changé à ce point. Et bon, voilà. Et tu remplaces, Marion, avantageusement une chatroom Twitch, donc merci beaucoup en plus de ce que tu fais. Alors, au passage, on parle de OpenAI et de Sora, et évidemment, c'est la guerre des entreprises qui bossent sur l'intelligence artificielle, et ça éclipserait peut-être, et ce serait dommage de le considérer pas à sa juste valeur, mais une nouvelle présentation de la part de Google. Alors, ce qui est assez délicat dans le cas de Google, c'est qu'au moins, ils sont cohérents dans l'incohérence de leur nommage et de la manière de vendre leurs produits et leurs innovations, je trouve, par certains aspects, puisqu'ils ont annoncé la semaine dernière Gemini 1.0, alors qui était d'ailleurs un remplacement. Alors, c'était toujours le modèle Gemini qui était derrière, mais l'interface avec laquelle on pouvait discuter s'appelait Bard chez Google, donc ils l'ont renommé Gemini. Donc, je trouvais qu'il y avait au moins, pour le coup, un élément de cohérence. Mais, patatras, ils lancent une semaine après seulement des annonces autour de Gemini 1 et avec différentes fonctionnalités qui ont été listées, une itération de Gemini, mais seulement sur la version Pro. Donc tenez-vous bien, c'est compliqué, il y a différentes gammes dans les Gemini avec plusieurs versions. Et là, la version 1.5 ne concerne que la partie Pro de Gemini. On avance en marchant sur des œufs pour comprendre la logique de nommage et de présentation de Google. Pour autant, il y a quand même un point qu'on doit relever, c'est que cette nouvelle version de Gemini 1.5 Pro, elle offre une capacité de digestion du contenu beaucoup plus grande. Vous le savez, les intelligences artificielles, elles ont une fenêtre de contexte, une mémoire quelque part de l'historique de la conversation qui ne permet pas toujours de digérer des grands volumes d'informations. Gemini 1.5 Pro est bluffant de par le nombre de contenus qu'il arrive à digérer. Il a une fenêtre de contexte de... Alors, je ne sais plus, j'ai eu des chiffres un peu contradictoires, il faudrait que je reprenne, mais entre 1 et 10 millions, peu importe, et gardez à l'esprit que GPT-4, c'est 128 000 tokens. Donc, on est quand même sur un rapport bien plus grand avec Gemini 1.5 Pro. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on lui fait digérer le compte-rendu de la mission Apollo avec la conquête de la Lune, qui est un gros document, et qu'on l'interroge, et c'est évidemment l'objet de la démonstration de Google dans une vidéo, elle arrive à ressortir des éléments clés, l'interface, et en quelques secondes. Et donc là, on est quand même sur une démonstration qui montre à quel point, là aussi, le marqueur va beaucoup plus loin avec les capacités d'interaction des intelligences artificielles. C'est qu'on a des outils qui arrivent à digérer des gros volumes de données et qui arrivent à interpréter ce contenu. Ce qui est un peu dommage pour Google, du coup, et c'est à se demander si OpenAI n'avait pas Sora comme ça, là, sous le manteau, et qu'ils se sont décidés à l'activer, je fais de la spéculation, pour contrer cette annonce, parce que, du coup, on a quand même Gemini 1.5 Pro qui est vraiment une vraie avancée et une vraie évolution qui se fait passer un petit peu au second plan de l'actualité au détriment de Sora. Donc bon, voilà, je voulais quand même souligner ce point parce que c'est une énorme avancée. Je ne sais pas si vous vouliez réagir à cet élément.
Et tu as même l'ouverture du centre parisien avec le patron de Google qui se déplace à Paris. Vraiment, là, il y a un côté rebondissement sur les actus pour prendre la place. Hein. C'est vrai que Google a été complètement évincé du cycle d'actualité, alors que il y a quand même un événement mondial qui se tenait pas très loin de chez nous pour les Parisiens. Et effectivement, le lancement de Gemini 1.5 Pro, enfin, c'est vrai qu'ils ont éclipsé. Enfin, OpenAI a une tendance à très souvent réussir à éclipser ses concurrents avec un petit buzz.
C'est impressionnant, j'en ai même pas entendu parler de l'ouverture à Paris.
Du centre parisien.
Mais ouais.
il y avait Sundar Pichai à Paris.
Ah oui, quand même.
Ouais, c'était très très
juste
gros.
Juste le CEO de Google qui était là, quoi.
Ouais, bien sûr. Non, c'était très gros. Il y avait, pour le coup, on a eu Bruno Le Maire, Valérie Pécresse, ils étaient toutes là, enfin, toutes et tous ici. Hein, c'était un gros événement. Mais effectivement, OpenAI, il y a ça. Je sais pas si vous vous souvenez, quand ils avaient fait leur keynote qui avait été extrêmement décevante, perdait énormément d'argent en bourse fin d'année dernière parce que en fait ils savaient pas faire une keynote. Il y avait eu ces rebondissements hein, avec Sam Altman viré, etc. À chaque fois il y avait toujours eu un petit twist où ils reprenaient un peu du poil de la bête, notamment la sortie, c'était la sortie de leur version entreprise avec les personas, avec les modèles enregistrables directement depuis ChatGPT. Ils sortent des trucs un peu vite, que ce soit de la démo ou de l'annonce, quand ils ont quelque chose à faire oublier ou une actu tierce à faire oublier. Par exemple, là, c'est Google, quoi. Bon, ils n'ont pas laissé le...
Mais c'est impressionnant hein, comme stratégie de communication, parce que quand on se rappelle quand même les déboires de décembre, ils paraissent très loin finalement, alors qu'on est juste mi-février, quoi.
Ils ont toujours quelque chose sous le coude, ça on peut en être sûr, et ils peuvent le sortir au moment le plus opportun.
Alors, autre élément qui souligne cette guerre et probablement cette cible à abattre que peut représenter Google, c'est qu'on a des informations qui se recoupent, qui indiqueraient qu'OpenAI serait en train de développer un outil de recherche pour le web. Alors, en partie propulsé par Bing. C'est marrant parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand ChatGPT a commencé à être connu du grand public, il y a de ça pas mal de temps maintenant, on a commencé à entreapercevoir le fait que, mais désormais, le réflexe qu'on a d'aller rechercher de l'information sur Google, ça va probablement drastiquement changer à l'avenir avec ce type d'outil. Si Google ne se met pas à la page, vraisemblablement, on va rechercher de l'information avant sur des chats GPT et compagnie. D'ailleurs, Microsoft avait beaucoup misé, vous le savez, en essayant d'injecter des éléments fonctionnels à la chat GPT sur la fenêtre recherche de Bing. On le sait aussi ces derniers temps, ça n'a pas eu les effets escomptés. En tout cas, les parts de marché n'ont pas drastiquement évolué. Et ça reste Google qui est évidemment le canal privilégié pour aller rechercher de l'information. Et je trouve ça juste un petit peu dingue de se dire aussi que OpenAI pourrait très très bien développer une partie recherche web. Alors, c'est un peu flou hein, encore à ce stade. On ne sait pas si c'est intégré à du ChatGPT, si c'est un outil à côté. Mais c'est quand même malgré tout intéressant de suivre ça et de se dire qu'OpenAI a probablement dans le viseur la source de revenus la plus importante de Google. Et c'est intéressant aussi de voir que quelque part, ils se disent qu'il y a peut-être mieux à faire que ce que Microsoft, un financeur important d'OpenAI et quelque part un gros partenaire pour eux, ils ont leur épingle à tirer de cette compétition et ils arriveraient peut-être même à faire mieux que leur financeur principal qui est Microsoft. Vous avez eu le réflexe, vous, depuis que ChatGPT s'est installé dans nos vies, de rechercher l'info plutôt sur ChatGPT que sur Google, Marion. Je ne sais pas si tu as eu ce réflexe.
Oui, complètement. En fait, nous, on utilise la société Dust, créée d'ailleurs par des anciens d'Alan, qui fait ce genre d'assistant, donc qui se repose sur ChatGPT et qui va faire des assistants qui va être entraîné sur la base d'information de la boîte. Donc d'Alan, de la boîte pour laquelle tu travailles. Et donc en fait, c'est un peu notre recherche pour tout ce qui concerne mon boulot. Et donc en fait, vous allez me dire, j'allais pas utiliser Google pour faire ça, mais maintenant du coup, j'utilise pour un peu tout. Je crée mes propres assistants moi-même. Je vais toujours avoir le réflexe d'utiliser Dust, qui utilise l'intelligence artificielle pour chercher. Alors pas pour tout complètement, mais de plus en plus. Et puis après, j'utilise le navigateur Arc aussi, qui joue un petit peu avec l'intelligence artificielle aussi pour te remonter les résultats les plus pertinents par rapport à ton historique, par rapport à ton usage, etc. Donc, c'est clairement, il y a quelque chose avec l'intelligence artificielle et la recherche, parce que de toute façon, le principe, c'est de t'amener la réponse la plus pertinente par rapport à un espèce de ranking, par rapport à ce qui, sur quoi il est entraîné, quoi. Donc, il y a le paradigme n'est pas très loin de la recherche, si c'est pas même très proche de temps en temps.
Je trouve ça absolument terrifiant qu'on puisse déjà entendre ça. Parce que, Dust, effectivement, est en local sur tes bases de données à toi, dont tu connais les sources et que tu sais qu'elle va te sortir des informations qui sont backées sur ta base de données. Je suis d'accord, mais alors pour le web en général, je trouve que là, on a quand même oublié les fondamentaux, c'est qu'une IA générative hallucine, au sens strict. Elle place des mots les uns à côté des autres, sans connaître leur sens, avec une probabilité forte que la phrase soit cohérente et juste. Pas vraie, mais juste.
Convaincante, quoi.
Du coup, c'est faire de la recherche d'informations avec ces outils-là, je l'ai démontré en trois exemples très simples. Une IA, vous lui demandez sur quel ChatGPT, hein, vous lui demandez sur quel cartographie se base le GPS des Tesla, vous lui posez la question, elle va vous donner une première réponse, admettons OpenStreetMap, je me souviens plus exactement du résultat, vous lui dites non, c'est pas ça, j'ai fait mes recherches, regarde ce lien, elle va vous dire exactement ce que vous voulez entendre, c'est-à-dire vous donner une deuxième version, admettons Bing Maps, vous lui dites t'es sûr, revérifie, ah ben non, finalement c'est Apple Maps, Tesla a un partenariat avec Apple, en fait elle n'a pas l'info. Et elle va sortir absolument n'importe quoi. Donc en gros, si l'usage de l'IA devient à être un moteur de recherche...
Non, mais l'IA, tu vois, tu peux l'utiliser... Enfin, l'IA, c'est un grand mot. En fait, ce qui est intéressant, c'est de parler des cas d'usage, finalement, sur comment tu peux l'utiliser de manière pertinente. Donc Dust en est un, tu vois, quand c'est entraîné sur une base de données bien spécifique où tu contrôles la source. Et par exemple, alors je l'ai pas encore utilisé, c'est un truc que je voulais tester, mais le navigateur Arc, qui va utiliser ton usage et tes précédentes recherches pour, quand tu refais une recherche similaire, te faire remonter automatiquement soit les pages que tu as déjà consultées, parce que il y a de grandes chances que tu veuilles retourner simplement dessus, etc. Et donc ça aussi, ça s'en est dans un certain sens.
Ça, c'est pas mal. Mais Arc fait aussi de la génération de texte en résumant, par exemple, des articles.
Alors ça, je l'ai pas testé encore.
La même chose.
Ça, je le fais pas, ouais.
Ça a une chance sur deux d'être faux. Et en fait, ce réflexe, pour moi... s'il est pris, pour le coup, on se dirige vers une catastrophe informationnelle, parce que même s'il est bon, le nombre d'articles faux qu'on trouve sur Internet aujourd'hui, sur le web en général, est très élevé. Et si les IA sont nourries avec des informations fausses et qu'elles recrachent, même en étant sincères, des informations fausses, vous avez un problème d'accès à l'information qui est colossal, qui peut être réglé uniquement avec la citation de la source. Mais bon, il faut avoir le réflexe d'aller voir ce sur quoi l'IA s'est appuyée pour sortir sa réponse.
Mais c'est un problème qu'on a déjà aujourd'hui. Enfin, en me faisant un peu l'avocat du diable, aujourd'hui, quand tu fais une recherche sur Internet, comme il y a des sites Internet qui affichent des fausses informations et des sites Internet qui affichent la mauvaise information, enfin de la bonne, il faut savoir faire le tri entre ça et ça. La difficulté, c'est que ça met une distance supplémentaire entre vérifier la source et la réponse qu'on te donne, quoi. Et c'est ça, en effet...
Je te rejoins complètement. Dans le cas 1, t'as une éducation aux médias qui peut être simple, hein, aux médias, puisque j'ai envie de dire plus une éducation à l'information qui peut être simple. Dans le cas 2, c'est-à-dire le cas chercher de l'information par ChatGPT, tu n'as pas l'accès à sa source. Tu dois croire ce qu'il raconte, parce que les sources, il les met de manière c'est des deals qui sont en train d'être signés. Je sais que le groupe Axel Springer aux États-Unis, en Allemagne, a commencé. Il y a des deals qui se négocient aux États-Unis, mais c'est très faible par rapport à l'intégralité du web. Et la plupart des choses que je cherche ou que je génère de mon côté, j'ai absolument pas accès à la source. Ce qui moi, à titre personnel, me fait me dire que t'as raison de dire qu'un moteur de recherche est déjà un masque et déjà peut te perdre. On s'est tous fait avoir par des sites qui arrivent à ranker alors qu'il n'y a strictement rien derrière, on le sait. Mais alors, quand il n'y a même pas la source du site, bah là, on est sur un deuxième niveau de crédulité, enfin finalement de confiance qu'on doit donner à la plateforme, qui, je trouve, est problématique, parce qu'on n'a pas de solution. À date, on n'a pas de solution.
C'est un problème, c'est un problème à la fois de deal, comme tu le mentionnais avec les deals qu'ils font avec Axel Springer, etc., pour avoir justement des sources qu'ils puissent utiliser. Et puis aussi un problème d'expérience, potentiellement, juste de comment utiliser le service et informer que sur tel sujet, il y a différentes vues. Tu vois, surtout si on parle par exemple d'opinion politique, etc. Potentiellement, c'est exposer les trois ou quatre points de vue les plus communs et avec un lien pour vérifier, un lien vérifié pour pouvoir creuser un peu plus par soi-même. Donc, je pense on est vraiment dans cette phase où on n'a pas encore très bien défini les cas d'usage qui vont être pertinents pour utiliser l'intelligence artificielle. C'était un peu le même cas avec le machine learning quand c'est sorti. Tout le monde disait « Ah ouais, c'est impressionnant !» Mais en fait, concrètement, qu'est-ce que ça va faire et comment je peux l'utiliser pour mon business ? On est un peu dans cette phase-là. Et donc, du coup, comme on n'a pas encore clarifié les cas d'usage, on n'a pas encore clarifié comment optimiser l'expérience pour ça. Et c'est ça qui est... Enfin, moi, je trouve ça excitant parce que je suis biaisée, je suis product designer. Donc, je travaille dessus, tu vois. Mais évidemment, ça peut être flippant parce qu'il peut y avoir des répercussions, évidemment, très importantes sur la société.
Alors, la recherche, on a compris, on met un point d'alerte et un point de vigilance sur ces fonctionnalités-là et ces cas d'usage qui seraient portés par des solutions d'OpenAI à l'avenir, on le garde en tête. Mais l'actualité ne s'arrête pas là sur l'intelligence artificielle et encore moins sur OpenAI. Ils sont en train de tester aussi chez OpenAI une nouvelle fonctionnalité de mémoire pour ChatGPT. Et pour les petits GPTs qu'ils ont déjà annoncés, qui sont déjà dispo, l'idée, c'est d'arriver à garder en mémoire côté ChatGPT des informations un peu phares vous concernant, que vous pouvez activer ou, évidemment, il vous rassure tout de suite, désactiver. Comme, par exemple, si vous avez des enfants dont l'un, la passion, c'est le foot et l'autre, j'en sais pas, c'est la danse, par exemple, d'arriver à dire que vous êtes de telle profession, que vous voulez des résumés de tel type, des trucs plutôt littéraires. Bref, c'est des espèces de personnalisation que vous pourriez avoir envie ou besoin de remettre dans chacune de vos instructions à un chatbot d'intelligence artificielle et que OpenAI vous propose de sauvegarder, d'activer ou de désactiver en fonction de vos requêtes. Je pense que ça, c'est plutôt pertinent. Dernier point, je vous laisserai réagir sur les derniers éléments d'OpenAI si vous le souhaitez. Toujours dans cet esprit de communication de la part d'OpenAI et de Microsoft, il y a une info qui est sortie, et j'avoue que je serais curieux d'avoir un petit peu votre retour là-dessus, c'est l'alerte que font donc conjointement Microsoft et OpenAI, partenaires sur ces usages-là, de hackers étatiques, notamment de pays tels que la Russie, la Chine ou la Corée du Nord, qui exploitent les fonctionnalités de ChatGPT et des services liés à l'intelligence artificielle, pour essayer de recueillir des renseignements, essayer d'affiner leurs attaques et essayer d'améliorer un petit peu leur processus d'attaque. Moi, je me suis beaucoup étonné de l'objectif cible de cette annonce parce que ça ressemble un petit peu à « attention, Sora est dangereux, on ne l'ouvre pas à tout le monde parce qu'on ne sait pas encore à quel point c'est dangereux ». À l'époque, d'ailleurs, dès les premières versions de GPT, GPT-1, GPT-2, il y avait déjà aussi ces discours qui disaient on ne sait pas quel risque il peut y avoir sur l'humanité, donc on veut le sortir plus tard, on ne veut pas le sortir tout de suite, etc. Et finalement, je ne vois pas en quoi ces annonces apportent vraiment quelque chose, mais peut-être que vous allez m'éclairer, Marion et Julien, mais en gros, on est en train de dire les cyberattaques sont aussi nourries de toute l'information qu'on peut trouver en ligne, et être vigilant tous autant qu'on est dans notre chaîne de valeur, que ce soit en entreprise ou à titre personnel, pour éviter de laisser déborder des informations, et essayer de mieux cadrer les informations qui peuvent être utilisé dans le cadre d'attaques, c'est important, c'est une vigilance de tout instant et c'est une acculturation qu'on doit tous faire auprès de nos proches et auprès de collègues dans les entreprises. Et là, je ne vois pas ce qu'apporte cette info, à part le fait de laisser supposer, encore une fois, que ces outils sont tellement puissants qu'ils offrent des fenêtres d'opportunité encore plus importantes de la part d'activistes de pays entre guillemets ennemis. Je ne sais pas si vous avez un sentiment complémentaire au mien qui me permettrait de voir les choses différemment, ou si vous trouvez aussi que c'est un bon coup de com'. Je ne sais pas, Julien, tu vois ça comment ?
Je trouve qu'on a une... En fait, c'est un petit peu le même sujet que...
Ça rejoint.
Qu'au départ, sur la vidéo. Mm-hmm. En fait, quand vous avez du phishing aujourd'hui, on s'en moque souvent, les fautes, les tournures naïves, enfin bref, on a vraiment des choses qui toujours donne la puce à l'oreille. Et on a aussi formé à la fois, comme tu dis, nos parents, nos employés, les personnes les moins tech-friendly de notre entourage à repérer ce qui pourrait clocher dans un message. La réalité, c'est que le phishing augmenté avec de l'IA, j'ai envie de dire, devient beaucoup plus pertinent, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus facile d'accès aussi, parce que vous pouvez être, comme tu le dis aussi, un Russe qui, du coup, a un accès à une traduction parfaite, parce que pour le coup, l'IA traduit très, très bien, dans tous les pays, dans toutes les langues, je veux dire, de sa campagne. Et du coup, le potentiel nuisible devient exponentiel, et donc on a
un effet loop, quoi, quelque
danger point. Effectivement, ça grossit en un clic toutes les capacités opérationnelles de ces groupes de hackers. Donc, je pense que l'actualité et la mise en garde, c'est surtout de dire ça va être de plus en plus complexe d'échapper à ce type de piratage et revoyez vos politiques internes et vos entraînements au phishing et même vous-même qui enfin moi à titre perso vous deux dans cette discussion j'imagine que vous l'êtes aussi qui êtes sensibilisés à ces choses-là vous allez avoir dans les semaines dans les mois peut-être dans les jours qui viennent des campagnes de phishing beaucoup plus crédibles beaucoup plus réalistes qui peut-être même vous qui êtes des professionnels ben vous cibleront. Et vous allez peut-être aussi vous faire avoir. Mmh. Et ça, je pense que c'est tout l'intérêt vient de là. C'est vraiment de rehausser son niveau et de se dire OK, on est quand même passé à une nouvelle étape dans le cadre de la cybercriminalité. Et cette nouvelle étape, elle est effectivement récente. Jusqu'à quelques mois, quelques années, bah, on se moquait encore des phishing qu'on recevait. C'était toujours voilà, grotesque. C'est plus vraiment le cas aujourd'hui.
Et s'il y en avait autant, et s'il y en a toujours autant d'ailleurs, malgré leur caractère grotesque, c'est parce que, et je pense que d'ailleurs, il ne faut pas se moquer hein, des gens qui se font avoir, parce qu'on peut tous se faire avoir dans la mesure où, voilà, quand on est un peu fatigué, un vendredi soir, on regarde un mail, ça coïncide peu ou prou à une expérience de consommation qu'on a eue. Enfin, on peut tous manquer de vigilance à un moment donné, et c'est la raison pour laquelle ces attaques continuent et pour lesquelles elles fonctionnent. Et évidemment, comme tu le dis, avec l'effet crédibilité en plus, ça peut revêtir des conséquences encore plus importantes.
Et puis pour rebondir sur ce que disait Julien, enfin sur ce sujet-là, moi je vois un autre enjeu, c'est qu'en fait il y a encore peu de régulation sur le sujet de l'intelligence artificielle et qu'en fait toutes les boîtes qui travaillent dessus sont en train de serrer les fesses en attendant de voir si quelles règles vont être mises en place et comment ils vont réguler s'ils décident de le faire. Donc en fait de montrer patte blanche et d'établir ces espèces de principes sur identifier et agir contre les acteurs qui menacent avec l'utilisation de sa technologie, notifier les autres services, collaborer avec les parties prenantes et être transparent. Tout ça, pour moi, ça ressemble à on essaye de vous rassurer, on montre patte blanche, ne coupez pas l'herbe sous le pied alors qu'on est en train de déployer cette technologie, quoi.
Et carrément. On va voir si les régulateurs arrivent à s'emparer de ce sujet mieux qu'ils n'ont pu le faire d'autres sujets, ou en tout cas de manière peut-être plus réactive. Je ne sais pas si on verra, on regardera ensemble. On va essayer d'avancer parce qu'on a encore plein de petites choses à dire et à relayer sur l'actu. On a notamment des infos du côté de Nvidia et c'est directement rattaché sur ce qu'on vient de dire. Ça tombe bien. Il s'est passé un truc important. C'est là aussi un nouveau marqueur des temps. Nvidia a pris la place d'Amazon. Dans le classement des capitalisations boursières et même le jour suivant a même pris la place de Google, enfin d'Alphabet. L'entreprise a augmenté de 600 milliards de dollars sa valorisation et a atteint 1,83 billion de dollars. Hein. Encore une fois, on jongle avec les milliers de milliards, c'est un peu compliqué, mais là où en gros Alphabet est juste derrière, 1,82 billion, on n'est pas habitué à parler de ces volumes de chiffres, on a du mal à se les représenter. Patrick, il en parlait la semaine dernière dans l'épisode, OpenAI aurait donc des plans pour des investissements matériels de 5 à 7 billions. Donc, quelque part, ça donne une idée de ce rapport de taille que peuvent avoir les entreprises dans ce domaine-là. Donc ça, c'est un point évidemment important, porté par les matériels qu'ils fournissent, qui nourrissent beaucoup les intelligences artificielles. Et puis, on doit parler aussi de Chat with RTX que Nvidia a présenté. Alors, qu'est-ce que c'est Chat with RTX, c'est une application de démonstration à ce stade pour installer votre propre chatbot avec intelligence artificielle sur votre ordinateur en local, donc il n'est pas du tout branché sur des serveurs, ça peut fonctionner en se déconnectant du web. Alors il en existe déjà plusieurs, hein, c'est pas une innovation au sens technique du terme, mais ça offre quand même des perspectives intéressantes dans le cas de l'application de Nvidia. Déjà c'est assez simple à installer par rapport à ce qui existe parce qu'il faut quand même pas mal bidouiller aujourd'hui. pour utiliser ce type de fonctionnalité en local. Et puis, bah, si vous avez une GeForce RTX 3000 ou 4000, les cartes graphiques qui sont, je pense, communément répandues aujourd'hui, bah, ça devrait fonctionner sans trop de problèmes, sans trop de configurations spécifiques. Alors, il y a des petits problèmes, il y a des petites limites que les journalistes et les testeurs ont pu commencer à identifier, mais quand même, grosso modo, il y a quelque chose de viable qui est en train de s'installer. Et surtout, bah, du coup, ça s'installe sur vos documents, enfin, ça peut se brancher sur vos documents en local, sur vos propres informations, et ça peut comprendre vos notes, les testeurs montraient, interpréter les vidéos que vous pouvez avoir, avec des avantages indéniables en matière de sécurité. Ça veut pas dire qu'ils hallucinent pas eux aussi, mais en tout cas, on sait que la portée de l'information qui est digérée par les intelligences artificielles, c'est ce que vous avez en local. Voilà. Nvidia, est-ce que c'est la future lettre à ajouter? Le N sera bientôt ajouté à GAFAM ou à GAMAM. Je sais pas comment on doit considérer ça. Mais...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je vous laisse réagir si vous voulez, et puis sinon on continue avec toujours du matériel parce que c'est en lien direct avec Nvidia. Alors ce que je vais faire, je vais m'amuser, hein, je vais capitaliser sur ce qu'il a fait. Il y a Patrick, il a rajouté ce matin dans le conducteur le petit mot de Patrick, donc je vais carrément le citer. Je sais pas si vous aurez le temps de voir ça avant l'enregistrement, donc on l'a digéré un petit peu. Ça peut valoir le coup de le mentionner. Grok, il voulait parler de Grok, donc c'est Grok, qui est une start-up qui a conçu une toute nouvelle architecture de puces dédiée à l'exécution des modèles de langage, et ça donne des réponses 10 à 20 fois plus vite, de sorte que la conversation devienne totalement naturelle. C'est totalement révolutionnaire, dit-il, il a même mis totalement capital, donc je souligne, c'est totalement révolutionnaire, ça change complètement le rapport au chatbot, et c'est juste complètement fou. Effectivement, en creusant un petit peu, il y a une présentation qui a été faite de Grok, donc ça n'a rien à voir avec l'assistant d'intelligence artificielle d'Elon Musk, hein. Vous savez, le truc un peu fantasque qui vous dit que consommer de la drogue, c'est rigolo, mais c'est pas bien. Donc Grok, Grok, il propose des solutions techniques qui sont grosso modo une autre manière de faire tourner les intelligences artificielles. Aujourd'hui, ça repose beaucoup sur les cartes graphiques, sur les GPU, et donc c'est ce qui explique les excellents résultats en partie de Nvidia. Et les unités matérielles de calcul de Grok fonctionnent différemment. Pour reprendre l'analogie qui est partagée par le CEO de Grok qui est intervenu dans une interview chez CNN, grosso modo, il faut considérer que c'est comme si on voulait produire beaucoup de voitures, en gros, de faire tourner des intelligences artificielles, et que si on n'a pas une grande surface de travail avec une usine, bah, on est obligé d'éclater les lignes de production, et donc du coup, il y a ces bandes passantes des véhicules qui sont ralenties, et il faut avoir des grosses capacités de mémoire. C'est en tout cas le problème qui est aujourd'hui rencontré avec les cartes graphiques, c'est qu'il y a besoin de transférer beaucoup de mémoire en permanence, et la manière dont il propose de fonctionner, c'est d'avoir des grosses espaces de digestion de mémoire et qui ne dépendent pas d'une bande passante telle que c'est le cas aujourd'hui avec les GPU. Donc c'est Jonathan Ross qui est à la tête de Grok, qui est le créateur d'ailleurs des TPU, les Tensor Processing Units, qui sont derrière les services et les matériels de Google. Ça peut accélérer de 10 à 20 fois la réactivité de ces interfaces. Est-ce que c'est un élément... c'est une question rhétorique, évidemment, Marion, mais est-ce que c'est encore plus convaincant d'avoir une interface qui répond 10 à 20 fois plus vite ?
Ah ben non mais c'est, quand on parle de toute façon d'interaction conversationnelle, que ce soit en chat ou à la voix, de savoir que c'est instantané, du coup tu ne sais même pas finalement que c'est un bot en fait finalement. Ouais.
La conversation dans l'interview de CNN, il y a une démo hein, en fait qui est faite dans la vidéo, vous pouvez la retrouver assez facilement. La journaliste discute avec l'intelligence artificielle. Alors il y a la restitution vocale et donc elle est évidemment très performante, mais ce qui est bluffant, c'est qu'elle pose la question et en temps réel, enfin vraiment à la fin de la phrase, il y a la réponse. Et si elle la coupe, qu'elle la relance sur d'autres sujets, vraiment la discussion devient extrêmement naturelle. Et c'est évidemment un critère d'engagement hyper bluffant, quoi.
Mais tu sais, on avait vu aussi au CES justement la démo de je crois que c'était Nvidia aussi sur le jeu vidéo où on pouvait avoir une conversation naturelle et instantanée avec des NPC, enfin des non-playable characters. Et ça aussi, ça change ton expérience de jeu vidéo complètement en fait.
Tu avais vu Julien vite fait, enfin, je sais pas si ça t'inspire des éléments par rapport à ça.
Oui, bien sûr, c'est très intéressant et ça montre en termes d'économie aussi que Nvidia, tu parlais de leur croissance en bourse, 600 milliards, c'est ça que tu disais, c'était le chiffre.
Ouais, ils ont augmenté de 600 milliards leur valorisation boursière.
Et a un petit effet bulle, comme on le dit. Ceci n'est pas une recommandation d'investissement, comme on dit à chaque fois, mais si on trouve une technologie qui les ringardise, parce que l'exécution de leur croissance, elle repose quand même beaucoup sur l'IA. Elle a repoussé avant sur les cryptos, hein, on s'en souvient. Elle repousse aujourd'hui beaucoup sur l'IA. Si tu trouves la techno qui les fait devenir une boîte dont tout le monde peut se passer parce que la techno est, on parle de rapidité, mais aussi peut-être qu'elle est plus accessible, qu'elle est plus facilement productible, qu'elle est moins chère. Enfin, tous ces éléments-là peuvent être combinés. Je parlais encore à une personne la semaine dernière qui s'occupait d'équiper un data center et qui me disait que les cartes Nvidia les plus puissantes du moment, il fallait les acheter au marché secondaire. C'est-à-dire chercher une boîte qui coule ou qui doit revendre pour les avoir et équiper des nouveaux serveurs. Parce qu'il n'y en a pas, en fait, sur le marché. C'est OpenAI et les partenaires historiques de Nvidia prennent tout. Du coup, si tu trouves une techno qui est à la fois meilleure, moins chère et disponible, en fait, tu peux avoir un effet boule de neige violent sur Nvidia qui serait finalement ringardisé très très vite. Donc oui, ce genre d'infos, après il y en a une qui sort toutes les trois semaines, hein, donc le tueur de Nvidia maintenant c'est l'entreprise à abattre, mais le jour où ça existe vraiment, j'espère qu'Nvidia prendra les bonnes décisions et fera une Apple par exemple et rachètera la boîte, quoi.
Ce qu'on peut se dire, c'est qu'Nvidia a toutes les bonnes raisons de regarder l'alternative aux cartes graphiques et à se dire il faut peut-être qu'on sorte le chéquier pour acquérir ça.
Ouais, complètement. Enfin, en tout cas, s'ils sont encore dans cette perspective de croissance.
Effectivement. Allez, on avance du coup c'était le premier sujet phare sur les trois que j'avais identifiés, mais je pense que là, il faudrait mettre plutôt le jingle que Patrick met pour le reste de l'actu pour traiter les autres sujets, tellement l'intelligence artificielle est massive, mais c'est très bien. Alors, quelques éléments pour tout plein d'autres sujets que l'intelligence artificielle. On a une temporalité qui est intéressante pour l'Apple Vision Pro, dont on ne va pas reparler en détail, mais quand même, on a atteint la période un peu cruciale des 14 jours qui suivent la sortie d'un produit. Et c'est le délai avec lequel on a la possibilité de renvoyer gratuitement et sans motif le produit à Apple. On a vu plein de témoignages sur les réseaux sociaux. Alors attention, hein, quand je dis plein, il faudrait arriver à quantifier ça de manière plus fiable. Mais en tout cas, il y a eu pas mal de témoignages de personnes qui renvoient l'Apple Vision Pro. Et c'est intéressant parce qu'on compare assez régulièrement la sortie de l'Apple Vision Pro avec la toute première Apple Watch ou le premier iPhone, en disant il y avait plein de parallèles à en faire, notamment sur est-ce que ça va convaincre dans les usages, est-ce que les gens sont prêts à adopter ce type de produit. Il semble quand même assez objectif de dire que les proportions de satisfaction ou tout du moins de confirmation de la place que ça peut prendre dans le quotidien compte tenu du prix sont pas tout à fait les mêmes avec l'Apple Vision Pro qu'avec d'autres produits Apple par le passé. Et puis, la période, elle est aussi intéressante au sujet de l'Apple Vision Pro parce qu'il y a commencé à avoir des réactions, notamment une de Mark Zuckerberg, que vous avez dû voir, qui est intervenu en vidéo. Et puis, vous ne devinerez jamais ce qu'il en pense de l'Apple Vision Pro. Suspense, il n'est pas totalement convaincu. Il intervient en vidéo avec... donc, c'est une vidéo qui est filmée avec un MetaQuest 3, donc une espèce d'élément de com dans la com. Et il fait une critique, évidemment, assez partiale de l'Apple Vision Pro. Il repositionne... la comparaison Apple Vision Pro versus casque Meta de réalité mixte comme étant le combat des écosystèmes fermés contre les systèmes ouverts, ce qui me paraît un peu malgré tout déplacé, ou en tout cas ça a vite ses limites en matière de comparaison. Il dit que l'interaction avec les manettes et les mains du Quest sont meilleures, que la bibliothèque est plus immersive et surtout qu'il est 7 fois moins cher. Bon, après il mentionne évidemment pas le fait que c'est un premier produit et il occulte sans doute la force de distribution d'Apple. Il est forcément très partial. Mais voilà, c'était intéressant en tout cas de se poser un petit peu après l'arrivée de l'Apple Vision Pro. Marion, est-ce que les propos de Mark Zuckerberg te convainquent d'attendre définitivement quelques années avant de t'équiper d'un casque Apple Vision 2, 3, je sais pas.
Je pense que de toute façon, la plupart disent, on est vraiment sur un produit qui est plus de l'ordre du prototype ici que d'une V0 de produit à commercialiser. Je trouve ça difficile la comparaison quand même avec l'Apple Watch par exemple. Parce que c'était quand même un produit qui était... Enfin, l'Apple Watch, c'était quand même... ça faisait référence à quelque chose qui existait déjà, c'était une montre augmentée. Donc beaucoup plus facile déjà à marketer, à vendre, etc. Même s'ils ont quand même pivoté entre la première génération et les suivantes sur notamment les cas d'usage et comment on allait utiliser concrètement l'Apple Watch. Donc il y avait quand même une étape de maturation, de compréhension du produit, etc. Mais là sur l'Apple Vision, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus dans le futur, la tech est pas au point. Enfin, même Apple le sait et les compromis qu'ils ont fait le montrent aussi. La tech est pas au point, elle est pas assez miniaturisée. On a eu pas mal de remarques sur le poids, etc. Et il y a pas, de ce que j'ai compris, parce qu'alors moi, attention, je l'ai pas testé. Il y a pas un usage vraiment clé qui va faire que les gens vont le garder. Alors, ce qui revient le plus souvent, c'est l'expérience des films est assez folle, mais c'est une expérience solo encore pour l'instant. Donc, je suis pas vraiment étonnée de cette fenêtre des 14 jours qui est assez clé, parce qu'en effet, c'est le délai de retour de l'appareil. Est-ce que ça justifie de s'affoler ? Je suis pas sûre. Sur le point de Zuckerberg, bon... il avait pas mal de points légitimes dans ce qu'il a dit. J'ai trouvé ça très maladroit, un peu pathétique. Un CEO qui dit « Ah mais non, mais attendez, mon produit, il est meilleur. » Bon, on l'a comparé à Balmer. On peut en rire, etc. Je me demande même s'il aurait dû faire la vidéo, pour être honnête, franchement. Et puis même que ce soit le CEO, que ce soit Zuckerberg qui le fasse, et pas quelqu'un de l'équipe qui gère le travail sur le Quest, je trouve ça encore plus... Je pense pas que Tim Cook, je pense pas que Tim Cook aurait fait une vidéo pour se justifier. Il aurait laissé ses équipes ici prendre le lead sur ce sujet.
D'aucuns disent d'ailleurs que cette vidéo, elle a aussi comme objectif de rassurer en interne les équipes Meta pour avoir la parole du dirigeant sur un produit qui est déjà établi depuis quelques années et rassurer par rapport à l'arrivée d'un concurrent tel qu'Apple.
Si tu veux rassurer tes équipes, fais une vidéo en interne. Tu fais pas ta communication interne et ta communication externe de la même manière.
Elle était mauvaise, cette vidéo, effectivement, et en fait, toute la com autour du Quest est extrêmement mauvaise. Enfin, pour le suivre depuis des années, et la VR depuis des années aussi, faut savoir que le Quest, Quest Pro, Quest 3, c'est des modèles qui ont même pas été présentés à la presse, où il n'y a pas eu de briefing, il n'y a pas eu d'annonce, il y a guère eu de présentation, de prêt pour des tests. Ils en ont fait vraiment un outil de seconde zone en termes de marketing et de communication, et ils n'ont jamais présenté d'usage. à part des gimmicks. Et aujourd'hui, ils se réveillent et ils disent OK, j'ai un concurrent qui a une tech qui est au niveau, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, qui a des choses en plus. Donc, par exemple, le contrôle avec les mains qui bluffe absolument tout le monde, et les mains et les yeux. Faut pas oublier, hein, c'est on sélectionne avec les yeux dans le Vision Pro et pas avec la tête. Et ça, c'est quand même un truc qui différencie beaucoup les casques, parce que avec un Vision Pro, vous pouvez être assis sur votre chaise de bureau, ne pas bouger, être en repos total de vos muscles et de votre tête, et d'avoir uniquement une sélection au doigt et à l'œil. Donc c'est quand même quelque chose en termes d'UX qui a vraiment choqué absolument tout le monde qui l'a utilisé chez nous, parce qu'on en a un, hein, depuis le premier jour. On est allé en reportage et on l'a fait essayer aussi à des lecteurs qui sont pas forcément technophiles. Et pareil, hein, c'est la chose qui revient tout le temps. L'UX est incroyable. Et ça, il n'y a aucun cas de réalité virtuelle qui nous a fait cet effet-là. Donc, en fait, on a un peu ce côté, oui, regardez, j'existe, quoi.
Ils ont un écosystème aussi. À la différence de Meta, Apple a un écosystème d'applications qui leur
qui
donne...
Qui va au-delà du casque.
Voilà, ouais. Qui a une longueur d'avance, du coup.
En fait, ça fonctionne au sens où on est dans le casque et on a directement des choses à faire. Ce que j'ai jamais eu dans un casque, ouais, de réalité virtuelle aujourd'hui. C'est-à-dire que on se pose toujours la question de quelle expérience on va tenter, quel truc on va faire. Bon, bah là, si on est chez soi, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on allume l'application Apple TV ou Disney Plus et on lance un film. En fait, c'est déjà là, ça fonctionne déjà très bien.
Tu connais déjà parce que t'es familier avec cette expérience. Pour moi, c'est, alors encore une fois, je l'ai pas testé, mais ça me semblait le point le plus bizarre du Quest, où en fait, tu te poses toujours la question, mais à quoi je vais l'utiliser si c'est pas du jeu, si c'est... Enfin, tu vois, chatter avec ses amis, bon...
Et j'en ai parlé à un moment aussi, c'est que finalement, Apple a une vision très passéiste de la VR aujourd'hui, voire réactionnaire, hein, c'est que aujourd'hui, la réalité mixte, comme on l'appelle chez Apple, est quasiment entièrement en 2D. Et quasiment entièrement pensé comme être une extension de l'ordinateur.
Même les écrans ne sont pas courbés.
Les écrans ne sont pas courbés, c'est des fenêtres plates. Mais mine de rien, ça marche, parce qu'on y est habitué. Et on sait ce qu'on voit, en fait. Et on n'a pas besoin d'un nouveau mode d'interaction avec des objets en 3D qui ne nous servent pas. Par exemple, j'aurais aucun intérêt à me déplacer dans une pièce devant un écran d'ordinateur. J'ai besoin d'être assis à mon bureau et d'avoir effectivement un écran de 110 pouces devant moi. Et là, je trouve qu'ils ont vraiment craqué un truc. C'est peut-être cet entre-deux où l'interface, finalement, doit s'adapter à nos habitudes de très longue date. Tu parles d'écosystème, Marion, c'est vrai, mais c'est aussi, au-delà de l'écosystème, c'est l'informatique qu'on fait depuis 30 ans.
Ouais, mais ça me fait penser, tu vois l'approche que tu décris un peu... passéiste, etc. Ça me fait penser aussi à l'approche d'Apple avec le skeuomorphisme. Tu vois, pour que les gens se familiarisent avec les premiers smartphones, ou en tout cas avec l'iPhone. Et alors maintenant, tout le monde en rigole parce que pour tourner une page, il fallait faire comme si tu tenais une page, etc., etc. Oui, mais enfin, on en rigole. Mais à l'époque, ouais, ils ont quand même démocratisé l'usage des écrans tactiles, des applications, etc.
Totalement.
Et ensuite, une fois que les usages étaient acquis, eh ben, ils ont modernisé. Je me demande justement si cette approche d'écosystème avec ses fenêtres plates, etc., ça facilite l'adoption. Et après, ce n'est qu'une étape peut-être pour le futur.
Ouais. Bon, il faut pas nous faire dire ce qu'on n'a pas dit, hein. On n'est pas en train de dire que le MetaQuest 3, c'est un mauvais casque. Je sais qu'il y a plein de personnes qui l'encensent sur des cas d'usage, les performances pour les jeux, etc. Et sans doute que c'est le cas. Mais
je me permets, c'est une communauté particulièrement horrible, hein, la communauté de la VR en France. Je suis désolé, les gens qui nous écoutent.
Allez, hop, ça c'est fait.
La susceptibilité, on parle vraiment de produits créés par des multinationales milliardaires. On ne parle pas de votre mère, de votre sœur, de votre petit-père. Hein.
Ah, comment Julien, il vous rabille, là.
Il n'y a pas un attachement à avoir à ces produits-là. Et je dis ça parce qu'il y a eu des vrais torrents d'insultes et qui vient principalement de la communauté VR française. Ouais. Il faut redescendre à un moment. C'est des produits technologiques, c'est très bien. Il n'y a pas un gagnant, il n'y a pas un perdant. Et même ce que Nicolas, mon collègue, du coup, qui teste le Vision Pro et répète, la concurrence, ça a du bon. Être seul sur un marché, ça n'a jamais marché, hein. Enfin, ça fait des monopoles et on est très déçu quelques années plus tard. En fait, Facebook a la chance d'avoir Apple en concurrent aujourd'hui. Avant, il n'y avait personne hein, sur le marché qui était capable de rivaliser avec Facebook.
Et c'est déjà un bon signal, hein, ne serait-ce que pour la VR, etc. C'est un signal qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'il y a quelque chose à craquer, le fait qu'il y ait de la compétition qui arrive.
Ça ne sert à rien d'avoir des réactions très fortes parce qu'un nouveau concurrent est là et qui fait les choses mieux. Au contraire... Moi, je vis souvent dans une autre communauté qui est celle des personnes qui ont des Tesla. Il n'y a pas plus critique et je trouve que pour le coup c'est sain qu'une personne qui a une Tesla envers Elon Musk et envers Tesla.
Ouais.
Je trouve que c'est pour le coup c'est une communauté qui est assez saine et qui voit les limites de son produit. Enfin saine. Il y a des gens un peu toujours dans toute communauté, mais j'y vois beaucoup plus de critiques que la communauté VR qui je trouve est quand même facile à s'échauffer, quoi.
Ouais, d'ailleurs, enfin bon, on pourrait en parler des heures et je vais me restreindre, mais Mark Zuckerberg, à la fin de la vidéo, évoque effectivement l'engouement presque aveuglé des fans de l'Apple Vision. Bon, il évoque les fanboys, bon, voilà. C'est un vaste sujet. Alors, et puis, pour terminer, je voudrais mentionner les cas d'usage de la compagnie aérienne Beyond, qui est une compagnie aérienne sur les Maldives, qui a annoncé acheter des casques Apple Vision Pro et qui va équiper ses passagers. Donc voilà, peut-être une raison de plus d'aller aux Maldives, c'est qu'en plus vous pourrez avoir une expérience avec l'Apple Vision Pro. C'est d'ailleurs peut-être un cas d'usage qu'on verra, c'est que pour partie, on n'aura peut-être pas tous un casque de ce type-là chez nous, mais pourquoi pas dans des environnements d'expérience d'entreprise.
Excellent cet usage. Nicolas en a fait l'essai dans son retour de son reportage à New York pour le ramener. Honnêtement, vous passez un voyage alors si vous n'êtes pas en business, vous connaissez les conditions dans un avion, hein, c'est pas très agréable, même dans un train. Vous avez d'un coup devant vous soit une salle de cinéma, soit un bureau complet que personne ne voit, vous
ça
dérangez
incroyable.
Personne. Enfin, vraiment, ça change l'expérience. Hein. Là, pour le coup, le cas d'usage, je le vois tout de suite. Et même, ça pourrait même être un problème pour les compagnies aériennes parce que quelqu'un qui n'est pas attaché au confort de la business que côté lit ou quoi que ce soit pourrait se dire je vais économiser 2000 euros et avoir un Vision Pro sur un siège normal.
Ou même pour garder les gens tranquilles dans leur siège, tu vois, c'est une des problématiques des compagnies aériennes, c'est arrêter que les gens se sortent de leur siège et marchent dans l'allée. Tu vois, de les garder tranquilles si l'expérience est bonne avec un Vision Pro.
Pendant les turbulences, tu leur mets des images qui apaisent un petit peu. Bon, on a compris en tout cas un message aux responsables RH chez Humanoid. Il y a Julien qui a prévu des vacances aux Maldives. Un dernier point, et je sais que le timing est serré, mais je voulais absolument mentionner ce sujet parce qu'il est important. Il y a un petit point à faire sur le DMA parce qu'il restait une confirmation, même si on avait des indices qui laissaient, dans un tout autre registre que la réalité virtuelle, des indices qui laissaient imaginer un tel arbitrage. iMessage, donc les fonctionnalités de conversation message bleu sur l'iPhone, l'iPad, Apple, etc. On ne savait pas si Apple aurait dû interfacer les iMessage avec WhatsApp, par exemple, ou les messageries concurrentes. Or, Apple a fait valoir que c'était une fonctionnalité, pas une app à part entière, et puis qu'iMessage n'était pas si populaire que ça en Europe. On rappelle, il faut 45 millions d'utilisateurs au minimum pour être pris en compte dans le cadre du DMA. Alors voilà, c'est une confirmation qui est faite. Il y a par contre un dommage collatéral que je voulais mentionner qui était arrivé au fil des bêtas d'iOS et qui s'est confirmé. Et je voulais un petit peu prendre le pouls pour savoir si c'était vraiment un faux sujet ou un vrai problème sur lequel il fallait qu'on se penche et j'aurais juste besoin de vos retours là-dessus. C'est la disparition des PWA. Les progressives web apps. Je rentre un tout petit peu dans le détail, mais comme Apple va devoir ouvrir le navigateur et en tout cas ne plus forcer que ce soit Safari, ni techniquement, ni d'un point de vue applicatif et fonctionnel, qui soit utilisé pour naviguer sur le web, ils vont autoriser d'autres navigateurs. Et les progressives web apps, c'est ces petites interfaces web que vous pouviez utiliser comme des applications. Alors, c'était très connu de la part des darons comme moi qui avaient Pronote, par exemple, pour un enfant au collège en progressive web app. C'est super pratique parce qu'il n'y a pas d'application qui est vraiment bien pour ça. Et puis, tu as toute l'interface de la PWA, de la Progressive Web App qui fait bien le job. Et au fil des bêtas, ça a disparu. Et donc, on s'inquiétait de savoir si cette fonctionnalité qui avait évolué au fil du temps et qui avait touché un certain nombre d'utilisateurs satisfaits allait définitivement disparaître. Et ils ont pris la parole en disant que oui, ça allait disparaître et que c'était pour eux directement lié. Alors, disparaître uniquement pour les appareils Apple en Europe et que c'était directement lié justement à cette ouverture de Safari, puisqu'ils ne peuvent plus offrir le même niveau de sécurité parce que ils ne peuvent pas prendre en compte les PWA qui seraient interprétés par les autres navigateurs. C'est un point de détail peut-être, parce qu'il n'y a pas des proportions d'utilisateurs très très fortes qui utilisent sans doute les PWA, mais quand même c'est un retour en arrière, et ça laisse entreapercevoir, parmi d'autres infos qui tournent autour du DMA, que ça pourrait par certains aspects être un peu un coup d'épée dans l'eau, voire même quelque chose qui ne serait pas suffisamment aux yeux de certains des avancées en matière de régulation. Je ne sais pas si Julien, tu avais suivi cette affaire sur les PWA. Est-ce que c'est un faux problème? Est-ce que si on le met en parallèle de toutes les infos qui tournent autour des PWA, on pourrait parler de Bing notamment, qui n'est pas non plus concerné là-dessus forcément. Est-ce que c'est une avancée le DMA à ce stade, ou est-ce
pas un faux problème? Mais comme dans toute législation européenne, il y a des vraies avancées et des vraies protections, mais il y a aussi pas mal de choses qui sont moins bien pensées. Et je pense que la législation européenne manque d'avoir imaginé les dommages collatéraux. Ça en est un. Il y en aura probablement d'autres. Je trouve ça regrettable en fait qu'on en arrive là. Et je comprends d'un côté la position d'Apple, qui est de dire moi, ma promesse vis-à-vis de mes utilisateurs, c'est qu'ils naviguent dans un environnement sécurisé. Et sécurisé en tout point, le chiffrement, la navigation sur Internet, etc. Et à titre personnel, c'est aussi pour ça que je suis dans l'écosystème Apple, c'est que je veux me prémunir des nombreux problèmes qui existent en dehors de l'écosystème Apple. C'est en fait, c'est un peu le côté je m'achète une sécurité
un garde minimale. Du corps numérique, quoi.
Enfin, un garde du corps numérique où il est pas parfait, mais il fonctionne mieux qu'ailleurs, et il est il a fait ses preuves. Du coup, je comprends Apple. Maintenant, je comprends aussi l'intérêt du DMA, et du coup, je pense qu'il y aurait plus en suggestion, ce serait plus avoir des personnes un peu plus au fait de comment fonctionnent les écosystèmes et comment fonctionne la technologie grand public dans les institutions, et qu'elles aient un peu plus de regard sur ces sujets-là, quoi.
Marion, DMA, pchit ou quand même avancé?
Non, mais je pense que c'est bien qu'encore une fois, on se pose sur ce genre de problématique, mais je rejoins pas mal Julien, que ce serait bien qu'on inclue des personnes qui sont un peu plus proches de ce type de problématique et d'expérience, pour éviter d'atterrir avec une expérience comme les pop-up à cookies.
Oui, ah effectivement, oui. Sur lesquels on n'est jamais revenu. Effectivement,
ça prend des exemples. Je ne connais pas un Européen qui se lève et qui se dit merci le RGPD d'avoir transformé le web en pop-up à cookies. J'en connais pas.
Effectivement. C'est vrai que c'est devenu un enfer dans la mise en application. Bon, on ne peut pas traiter toutes les news qui étaient prévues, parce que vraiment, l'actu est hyper dense. Mais quelque part, c'est très bien, parce que Patrick reviendra avec un épisode la semaine prochaine où il aura déjà une liste de sujets pas traités sur lesquels il pourra revenir. On aurait pu parler du procès de Sarah Silverman avec OpenAI. Il y a des arbitrages qui sont intéressants. Il y a VGPA, je le prononce peut-être très mal, mais qui est un nouveau modèle d'intelligence artificielle développé par Meta, qui en gros amène les modèles à apprendre non pas avec du texte, mais en regardant des vidéos comme des humains. Il y a Stable Diffusion qui avance. On a des infos évidemment sur Elon Musk comme toujours. Bref, on peut pas tout traiter. Je vous propose quand même qu'on mette fin à cet épisode pour cette semaine, parce que je pense qu'on a rempli le job de remplacer Patrick en relayant ce qui se passe dans l'actu tech cette semaine. Mais évidemment, il y a des incontournables et je me dois de vous offrir une fenêtre de visibilité pour nous rappeler où on peut vous retrouver. Marion, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Oui, vous pouvez me retrouver sur X, Twitter ou les autres dont j'ai perdu le nom.
Blue Sky.
Oui, alors Blue Sky, j'y suis pas trop. Alors non,
Mastodon. Instagram, Threads.
Threads, merci. Mastodon, c'est trop compliqué. Enfin, genre, j'ai même pas essayé. Vous pouvez me retrouver à Aizea Design ou sinon tous les mardis matins sur Twitch pour Naotech avec la discussion sur l'actualité tech aussi. Voilà.
Et chaque mois dans le rendez-vous tech aux côtés de Patrick. Merci Marion. Merci beaucoup. Julien, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut suivre ton propre suivi de l'actu tech?
Toujours pareil, même chose, principalement sur X, Twitter, LinkedIn pour les actualités du groupe, où je poste assez régulièrement si le groupe humanoïde vous intéresse, mais surtout, je vous inviterai à aller voir nos médias plus que nos mes comptes à moi. Et de la même manière, j'en profite pour faire une petite pub pour notre lancement de l'abonnement premium à Numérama, qui pour le coup, alors je fais de la pub, mais ça l'enlève. Donc si vous n'aimez pas la publicité sur le web et que vous adorez nos contenus, c'est quand même une offre qui est vraiment peu onéreuse et qui nous permet de continuer à vous proposer de nouvelles choses, un média qui essaie de se différencier dans sa ligne édito et dans ses traitements édito. Typiquement, aller récupérer un Vision Pro et vous le faire essayer en avant-première, ça aurait pas été quelque chose qu'on envisagerait ni en termes d'investissement en temps, en budget, si on n'avait pas un abonnement comme ça et qui pouvait nous soutenir. Donc, si vous appréciez ce qu'on fait, c'est une des nouvelles manières de rémunérer notre travail et nous permettre de le faire encore mieux.
Numérama Plus, vous avez le bouton en haut à droite et vous avez même un pack fondateur à offre limitée. Merci beaucoup, Julien. Donc, je suis Guillaume Vendée. De mon côté, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux. Vous me retrouvez chaque semaine dans Tech Café, qui est un autre podcast sur la tech avec une approche complémentaire au rendez-vous tech. Donc, évidemment, vous serez tous et toutes, autant que vous êtes, les bienvenus pour écouter les compléments d'information autour de la tech. Merci beaucoup à tous les deux de m'avoir accompagné pour cet épisode. Et puis, au nom de Patrick, merci de m'avoir accompagné aussi en son absence pour satisfaire les auditeurs du rendez-vous tech. En attendant, on peut se dire au revoir et rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous.
Ciao, ciao.
Merci à toi. Salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.